Vous écoutez Timbre FM sur le 106.6. C'est l'heure du feuilleton de l'économie locale.
Qu'est-ce que l'économie locale ?
L'économie locale, ça représente l'énergie qu'on peut trouver sur un territoire.
Qu'est-ce que tu entends par énergie ?
Des sujets qui concernent, par exemple, pour le pays de Plouermel, la ruralité dans son sens large, parce que dans un milieu rural, et plus concrètement, sur l'accès au foncier pour les paysans, ça va être la valorisation du bois au niveau local, ça va être des questions d'habitat participatif et du vieillissement.
Et toi, tu fais quoi dans l'économie locale ?
Je travaille pour la dynamique essentielle Plouermel, qui s'est lancée en 2013, et j'essaye justement de mettre en valeur cette petite économie locale qui s'active tous les jours pour son territoire.
Les soirées d'échange sur des sujets citoyens, c'est au champ commun.
La semaine dernière, nous nous étions quittés sur la parole de Henri Georges sur l'évolution des 40 dernières années où l'on parlait de la disparition du média radio, comme on a pu enterrer le livre. Alors qu'aujourd'hui, ce média se développe comme un média spécifique avec une identité particulière et une puissance retrouvée. En effet, avec nos deux témoins radiophoniques du pays, de Plume FM à Serran et de Timbre FM à Ougan, on ressent l'envie de démontrer qu'il y a une qualité particulière. Nous allons aujourd'hui pouvoir écouter leurs réactions. Bonne écoute.
Effectivement, il y a beaucoup de radios associatives, c'est une particularité en France. Il y en a 680 à peu près pour 1000 opérateurs radio en France. C'est énorme, hein, oui. C'est vraiment une particularité française, donc c'est une grande richesse. Le fameux paysage radiophonique est idéal finalement. Dans bien des pays d'Europe, on est cité en exemple. Après, combien de radios disparaissent quand même au fil du temps, il y a quelques semaines, il y a une station de radio qui a fermé, qui s'appelait Zénith FM. Ils ont déposé le bilan là, il y a quelques semaines. Ils avaient deux studios, donc une équipe salariée, une équipe bénévole, dépôt de bilan, liquidation judiciaire, dépôt de bilan. Voilà, il n'y a plus de Zénith FM. Ça veut dire que ce sont des fréquences qui vont être remises dans le pot commun. Et on se doute que les autres catégories de radio vont postuler et que est-ce qu'il y aura une autre volonté associative derrière ? Il est fort à parier que non. Mm-hmm. Donc peut-être une autre radio commerciale qui va profiter de cette disparition. Alors ça, c'est un cas. Après, effectivement, Lorient, super nouvelle, Radio Balise, qui va émettre là, pareil, dans quelques semaines. Ça fait des années qu'il n'y avait plus de radio associative. La dernière à Périclite, c'était Radio Méduse. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, cette radio qui était dans la même dynamique que les nôtres, hein, finalement. Pareil, disparue, et depuis 10 ans, aucune radio associative sur le pays de Lorient. C'est quand même assez hallucinant. On vient d'en récupérer une, donc c'est une bonne nouvelle. Donc il y a des radios quand même, on voit que c'est tout à fait fragile et précaire tout ça, mais oui, il y a des bonnes... voilà, c'est quand même un dynamisme qui est là, qui est important, ouais. Oui. Mais c'est plus si facile que ça de monter sa radio associative. Hein. La bande de fréquence est saturée, a priori, c'est ce qu'on nous dit. Donc il faut attendre peut-être que des radios s'éteignent pour que d'autres naissent. C'est un peu dommage, quoi.
Oui, certainement.
Et les nouvelles technologies aussi qui arrivent. Hein. Il y a la radio numérique terrestre qui arrive et qui fait peur aux radios associatives parce que est-ce qu'on va avoir la capacité financière de se lancer dans l'aventure du numérique ? C'est pas sûr.
Mais je crois qu'il y a aussi une espèce de soin apporté à l'AFM. Enfin, il y a une nostalgie, mais il y a un lien affectif avec la bande FM, avec l'autoradio, avec le poste de radio. C'est quelque chose de culturel aussi, d'écouter la radio. Et non pas par internet, mais par le poste. Mmh. Et donc tu parles des radios de la RNT, donc la radio numérique terrestre qui va arriver. C'est une menace sans en être une. Ça peut être dans les nombreuses années à venir, hein, peut-être un gage d'une nouvelle diversité qui va se créer. Évidemment, ça peut être. Ça peut être difficile à imaginer dans le sens où on va se retrouver très nombreux. Donc qui va nous écouter si on est plus nombreux ? Mais je crois qu'il y a toujours un besoin d'écouter la radio. et de pouvoir jongler entre de la radio nationale avec une information plus généraliste, et puis de la radio locale où on a voilà, ce qui se passe sur le territoire. Il y a, je crois, une affection pour cet objet en tant qu'auditeur. Alors, c'est peut-être particulier à la France, ça je ne sais pas. Je crois que, effectivement, comme tu dis, Jessica, c'est quelque chose qui est très actif en France. Peut-être que dans d'autres pays, voilà, ça se passe autrement. Mais pour revenir à la RNT, etc., je crois qu'on ne va pas tuer comme ça la FM du jour au lendemain, parce qu'elle est ancrée, parce qu'il y a eu aussi tout ce combat des radios libres, comme on a pu voir dans le film, où il y a, voilà, quand il y a un combat qui est gagné, bah, en France, bah, on essaye en tout cas de pas le lâcher, de pas le lâcher si vite. Oh, ça fait que 40 ans qu'il est gagné, on va pas le perdre comme ça.
Bien sûr. Il y a des témoins qui sont encore vivants. Je perds pas encore de morceaux en route. Pascal, tu disais tout à l'heure que c'était une aventure, c'était un loisir, et que c'était une aventure collective. Et après, tu as tout de suite embarqué sur l'aventure par rapport au public, en fait. Bon, mais j'avais l'impression que tu laissais entendre que c'est aussi, en même temps, et peut-être d'abord, un ensemble de personnes qui se mobilisent, qui se retrouvent, qui font des choses ensemble, qui considèrent le fait de faire de la radio comme justement leur loisir. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin ?
Ça existe, c'est sûr. Hein. Je pense que quand les gens font une émission, en général, c'est parce qu'ils sont contents, justement, d'échanger avec une ou deux personnes. Mais on revient encore à cette notion d'échange. Mm-hmm. Je pense que c'est fondamental. Et si la radio tient le coup à ce point-là, à mon avis, c'est à cause de ça. Hein. C'est parce que c'est vraiment un outil de communication, mais... vraiment d'échanges directs, de dialogue. Une télé, elle a beau être allumée dans une maison, les gens finissent par ne même plus la voir et du coup ne plus l'entendre, ou alors ils sont vraiment scotchés. La radio, on peut la voir et faire plein de trucs en même temps et écouter quand même ce qui s'y passe. Ça mobilise une partie du cerveau, mais pas tout, et ça permet quand même de s'enrichir d'un tas de trucs sans pour autant arrêter de vivre, quoi. Donc je pense que ouais, la notion d'échange, elle est toujours là, de plaisir, bien sûr, hein, évidemment. Mais enfin, moi, en tout cas, de ce que j'ai suivi avec Plume FM, ce que je trouve vraiment central, et ça a pas bougé, c'est clair, c'est oui, je pense qu'il y a effectivement à la base un combat quelque part, quoi. Il y a l'envie de faire entendre quelque chose ou de donner la parole à quelqu'un qui l'a pas. Et je pense que ça, c'est toujours existant. Je suppose que Timbre FM, c'est pareil. Je ne sais pas exactement comment c'est né. Enfin, j'ai suivi ça de très loin. Mais je pense qu'il y a, oui, à la base, un besoin de prendre la parole et de la faire entendre, quoi. Et c'est ce combat-là, le même qui était effectivement il y a 40 ans quand les radios libres sont nées. Moi, j'ai entendu des tas de témoignages de gens qui avaient participé à des radios pirates, y compris Daniel. Et bon, bah, c'était des aventures extraordinaires, forcément, quoi. Hein. En plus, il fallait se planquer. Oui. On mettait l'échelle au bord de la grange pour avant Océan FM. Hein. C'est pas si loin que ça, quoi. Hein. C'était planqué en haut d'une grange. Et ouais, c'était rigolo, quoi, d'entendre ça après coup. C'était rigolo. Aujourd'hui, on en est pas tout à fait au même niveau, mais il y a quand même de temps en temps des discussions où on se dit bon, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que on peut vraiment laisser parler jusque là, et puis de temps en temps on se fait taper sur les doigts quand même, ça va un peu trop loin, et bon, et ben on essaye de rattraper le coup sans pour autant nier ce qu'on a dit, parce que on avait envie de le dire et on l'a fait, quoi. Je pense que cette couleur de liberté que donne la radio et à tous, c'est un truc formidable, quoi. C'est super.
Et qui tape sur les doigts là ?
Ça dépend. On a eu des expériences parfois sur un plan commercial, quoi, hein, des droits d'auteur. On a eu, on a eu aussi un frittage avec West France. Bon, il y a eu des, plusieurs épisodes, hein. Ça dépend.
C'était pas des institutions, c'était pas une institution de contrôle ou de.
Est-ce qu'il y a eu aussi.
Mais c'est que la contestation existe toujours,
ben oui,
et que les limites sont posées et que chacun dans son histoire, hein, Tabre FM est beaucoup plus jeune que Plume, chacun dans son histoire, ben, on va aux limites et puis on va bouger les limites et, oui, et s'y confronter.
On va les remuer en tout cas.
Voilà, aussi, parce qu'on n'est pas là assis sur notre chaise, gavé de subventions pour nourrir nos salariés, mais que... Et que les limites sont faites aussi pour être fréquentées, aller les bousculer. Et finalement, c'est presque. Enfin, il y a aussi quelque chose de la. Enfin, c'est apporté au crédit, je trouve, d'une radio, de se retrouver confronté à des à ces choses-là, ce dont tu parles.
On est toujours dans la notion de combat. Oui. C'est clair. Mmh. S'il y a plus de combat, il y a plus de vie, hein, je pense.
Bah, au-delà du combat, pour pas tomber dans le langage guerrier. Mais en tout cas,
la
confrontation, la sollicitation,
on interroge des choses parce qu'on pense qu'elles ne sont pas forcément bien placées, parce qu'on pense qu'elles peuvent bouger. C'est interroger des éléments, ce n'est pas forcément bien sûr guerrier, hein. ce que je veux dire.
Et ce qui fait que les radios associatives d'aujourd'hui sont toujours des radios libres dans ce sens-là. Oui.
Mmh. Ouais.
Après, Radio Libre, n'empêche que quand le groupe Ouest France t'envoie un super recommandé avec un dossier qui fait je ne sais plus combien de pages envoyées par le service juridique et que je ne sais plus combien de chefs d'accusation, effectivement, on la ramène moins quand même. Mais, et quand le directeur régional appelle directement, enfin bon, Libre, oui, on s'est quand même posé la question à ce moment-là. Mince, alors, mais pourquoi ils viennent nous... Vous cherchez des noises, est-ce qu'ils ont besoin vraiment de ça, eux, franchement. Et c'était juste pour nous faire peur, en fait, on l'a compris aussi assez vite, mais ça nous a fait peur quand même sur le coup. Et après, on s'est dit, eh ben, tant pis, on continue, et puis on aura un petit peu moins d'articles Ouest France, c'est clair.
Quand on voit comme ils sont rédigés.
Voilà, bah, c'est comme ça, et puis de temps en temps, on nous reparle de cette histoire.
Je pense que Timbre FM va avoir des problèmes.
on a aussi un dossier.
alors... Tout se dit.
Mais ça fait réfléchir, hein, ça fait beaucoup réfléchir au conseil d'administration, les bénévoles, la censure aussi quand on a eu des soucis avec un élu, par exemple. Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire. Tout ça, ça chamboule pas mal, hein, quand même. Hein, et puis quand on se rend compte aussi qu'on est écouté et qu'il y a quelqu'un qui t'appelle le lendemain pour dire non, qu'est-ce que vous avez été raconté, ça fait tout drôle quand même aussi, quoi. Mais ça fait réfléchir, donc c'est bien. Puis ça va pas beaucoup plus loin que ça, finalement.
Ça peut, soit on a fait une erreur, on la reconnaît, au revoir et merci. Voilà. Soit ça crée un débat, et c'est aussi la mission des radios, oui, c'est de solliciter du débat et de se faire confronter les points de vue. Je taquinais Ouest France à l'instant, mais voilà, on est tous faillibles, et donc on peut commettre des erreurs ou des imprécisions. Et voilà, le tout, c'est que justement, ça participe au débat de se retrouver dans des situations parfois... complexe, où on doit reposer les choses, et finalement le micro et une audience anonyme locale, finalement c'est je trouve un très bel endroit pour confronter des points de vue.
Et tant mieux qu'on soit pas d'accord, hein, parce que en fait si tout le monde était sur la même ligne, la vie serait bien triste, hein, et on serait pas dans une démocratie.
Et c'est vrai que nous, les auditeurs, parfois nous demandent aussi. Hein, je me souviens par rapport à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, il y a un auditeur qui nous appelait pour nous dire vous prenez pas assez parti, on n'entend pas assez parler des zadistes, de la ZAD, etc. Et ça fait aussi réfléchir parce qu'on se dit mince, c'est quand même notre rôle. Et alors, qui en a parlé? Oui, toi, t'as fait un reportage, mais c'était quand? Et effectivement, ça aussi, c'est intéressant, c'est important. Les gens sont en demande aussi, quand même, qu'on aille. Vers certaines limites et puis qu'on prenne parti aussi, oui, quoi.
Les blablas, c'est essentiel, mon cher Plo Hermel.
Oui, moi j'avais juste une question par rapport au film qu'on a vu là tout à l'heure, donc au 37. Alors au début, tu disais 32, après t'as dit 37, après t'as dit 40. Tu cherches à nous faire vieillir en fait. D'accord. Le combat, oui, des radios libres, enfin en tout cas des radios pirates à l'époque, ou je sais pas comment on peut les appeler. Ouais, enfin bon, bref.
C'était comme ça qu'on les appelait.
C'est comme ça qu'on les appelait, voilà. Et on parlait après de radios libres. Et j'ai cru comprendre à un moment dans vos échanges que dans les radios libres, il y a eu le devenir de radios, enfin quand ça s'est officialisé, il y a eu des radios associatives et après des radios qui n'étaient pas forcément associatives, mais ou plus commerciales. Ou, en fait, ma question, c'est quoi, ça veut dire quoi, radio libre ? Parce que dans la mesure où on devient légal, on rentre dans un cadre, ça vous l'avez bien expliqué. Mais peut-être qu'il y a aussi un deuxième cadre que celui uniquement de la loi, qui est celui de l'association en elle-même. Qu'est-ce que les élus, enfin les administrateurs de l'association, c'est quoi leur, enfin, j'allais dire leur pourvoir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas leur implication. Est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que, enfin là, on est en pleine période d'élection là en ce moment. Est-ce que des radios comme les vôtres peuvent se permettre de prendre position ?
Les blablas de l'ESS, c'est sérieux
sans se prendre au sérieux.
On peut prendre position, oui, bien sûr. Après, on est soumis aux mêmes contraintes que tous les autres médias, avec les fameux temps de parole, par exemple. On reçoit, à chaque événement politique, on reçoit un petit courrier du CSA qui nous rappelle la règle. Donc, on est soumis aux mêmes contraintes. Mais ce qui n'empêche qu'on peut, on peut prendre position. Hein, faut pas se cacher. La plupart des radios associatives ne sont pas politisées, mais elles le sont un petit peu quand même.
Elles sont pas politisées, mais elles sont engagées.
Elles sont engagées et elles sont toutes plus ou moins engagées de la même façon. Enfin, en tout cas, celles qui ont gardé la fibre un petit peu d'engagement associatif, etc. Voilà. Je parle pas d'autres. Peut-être pas le cas sur d'autres radios associatives. Par exemple, le fameux débat de la publicité. Nous, combien de fois on l'a eu, le débat ? Combien de fois ? On a choisi, c'est délibéré. Parfois, on le paye parce que c'est des ressources financières pour beaucoup de radios. Est-ce que ces radios-là elles sont toujours considérées comme radios libres associatives ? Dans la loi, oui, parce qu'elles ont le droit. Tant qu'elles ne dépassent pas le fameux palier, elles peuvent. Mais il y a une sacrée différence quand tu les écoutes entre les radios associatives qui font un petit peu d'activités commerciales et celles qui n'en font pas du tout.
D'ailleurs, moi, j'aime... Si ça fonctionne, oui, ça fonctionne toujours. Donc, j'aimerais faire remarquer qu'à partir du moment où on dit on nomme certains médias des radios libres, ça veut dire qu'il y en a qui ne le sont pas.
Oui.
Bah, les radios d'État, Radio France... Bah, les cadres légaux sont pas les mêmes. Il y a 6 catégories, je crois, de radios. Voilà, les radios associatives, c'est classe A. Bon, bah, elles sont soumises à telle limite, telle contrainte, telle liberté, celle de classe B, etc. Chacune a son cadre. Dans ce cadre, on est libre, mais on est libre de faire le tour de la cage dans un sens ou dans l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en tant que radio associative, effectivement, on a des contraintes, mais qui sont tout de même assez légères, entre guillemets. Voilà, l'histoire de la limite de publicité, mais c'est aussi des choix, un choix qu'on fait en tant que radio d'en passer ou pas. Nous... on en parle peut-être une fois par an, mais le sujet est vite clos parce qu'on n'en fait pas, point. Après, on n'est pas libre dans le sens où, effectivement, on est financé par le fonds de soutien aux émissions radiophoniques qui représente quand même, pour toutes les radios associatives, une grosse part des recettes, des produits. On a les subventions, d'une manière générale, qui sont une forme de lien parce qu'on nous les coupe, les subventions... on se retrouve dans une situation financière délicate. Il y a toutes ces choses-là.
Tout le monde a pensé à la même chose. Continue, là. Continue.
Je vois l'assemblée qui se marre.
Et côté masculin, surtout.
C'est ça. Et donc, effectivement, on n'est pas libre. Demain, la présidence prochaine décide que les radios associatives n'ont plus à être subventionnées comme elles le sont, et ben ça va à tous nous poser des problèmes. Donc on n'est pas libre financièrement. On a un cadre de liberté de parole, on a un cadre de liberté économique. Voilà. Après, effectivement, on ne doit pas s'engager. On répond aux règles du CSA pour les périodes électorales, etc. Ça, c'est évident, mais ça ne nous empêche pas d'être engagés. Voilà, comme disait Jessica, effectivement, Notre-Dame-des-Landes, pour prendre cet exemple-là, parmi tant d'autres, c'est local, on n'en parle peut-être pas assez. Eh ben, venez, bénévoles, en parler. Il y a de la place pour ça, parce que ça correspond à ce que nous, on souhaite transmettre comme message. Après, c'est aussi la façon dont le message est retranscrit. Et je crois que le bénévole qui va faire un reportage, une émission, des interviews, etc., sur un sujet, il a toute liberté de le faire. De la façon dont il va entrer dans son sujet, comment il va l'orienter. C'est sûr que si on a un reportage de 2 heures pro-aéroport, on va peut-être tiquer, mais on proposera un débat contradictoire, par exemple. Donc effectivement, on a une ligne éditoriale, je pense, qui est écrite, mais qui est aussi qui est intuitive. Intuitivement, on a un engagement.
Et qui répond à des opportunités aussi, des rencontres, etc., j'imagine. Mais sur, moi, la question de cette liberté-là, en fait, et de dire qu'il y a des médias qui ne sont pas libres, c'est que j'ai connu une époque aussi où il y avait un ministre de l'Information. À l'époque, il y avait des médias qui étaient des médias publics uniquement. Et puis, ces missions, il y avait le fait d'avoir la possibilité de prendre le téléphone et de dire là, dans tel journal, etc. En fait, c'est pas supportable comme ça, en fait. Et là, je refuse que ça se passe comme ça, quoi. En fait, bon. Donc, on était dans un contexte de censure. Là, maintenant, la censure, elle n'existe plus à ce niveau-là, quoi, en fait. Mais le fait qu'on soit en dépendance par rapport à des financeurs, on a une autre forme de censure. Et donc, cette notion de liberté, elle est contrainte par cette dépendance.
Mais si je peux réagir du tac au tac, aujourd'hui, dans certains journaux, il n'y a plus de censeur d'État, mais il y a des censeurs privés. Quand c'est un milliardaire est propriétaire d'un journal,
exactement.
Je pense que la censure, elle a juste changé de casquette, quoi.
Tout
mais,
à fait.
Ou de nom. Mais, oui. Mais le problème est toujours
pas
le même.
Pas simplement un journal, hein, des chaînes de télévision,
de radio,
des
radios, voilà, en fait, des radios aussi. Sûr.
Voilà. Donc, cette logique de libre et pas libre, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on va dire dépendant, là, quoi, en fait. Bon, mais ça suppose de la censure objective, directe, ou de l'autocensure, en fait. Parce qu'on anticipe aussi que ça pourrait défriser, justement, la personne.
Moi, juste sur cette notion de liberté, pour revenir sur ce que tu disais, Armel. Je pense que là où on s'est peut-être un petit peu éloigné de la liberté, c'est quand les radios se sont professionnalisées. Donc à un moment donné, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire un travail, et pourquoi pas en vivre, et pourquoi pas avoir des équipes, etc. À partir de là, tu rentres dans une autre dynamique où tu es plus libre, hein, finalement. Et du coup, dans le petit documentaire que tu avais choisi, là, ce qui m'a fait écho, et ça... C'était chouette, c'est les radios éphémères. Ils disaient, bah tiens, il y a un événement et hop, on crée une radio. C'est ça, en fait, la véritable liberté, je pense, maintenant. C'est comme ce qui s'est passé sur les événements de Nuit Debout. Voilà, on a une radio éphémère qui est très, très importante, qui fait un boulot fantastique. Et puis hop, après, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être encore ce genre d'initiatives qui sont vraiment totalement libres.
En fait, c'est marrant, tu devances ma question, parce que moi, je voulais demander aussi, est-ce que, à votre connaissance encore aujourd'hui, pour garder ce côté peut-être plus libre, est-ce qu'il y a encore des radios pirates ?
Moi, je te dirais sans doute que oui. Après, pour émettre, le CSA fait la guerre aux radios, hein. Quoi qu'il en soit, il faut signer des conventions. Si tu ne respectes pas ta convention, on t'enlève ta fréquence. Tu as quand même c'est un organisme de régulation, quoi. Donc,
ouais. Il y a des petites radios pirates éphémères, ponctuelles. Voilà, c'est pas pour parler de la ZAD ce soir, mais il y avait Radio... son nom m'échappe. La radio pirate... qui emploie en fait la fréquence de Vinci Autoroute, hein, petit clin d'œil au passage, oui. Qui n'émet pas sur le secteur de Notre-Dame-des-Landes. Ils utilisent cette fréquence-là pendant les grandes manifs, etc., pour avoir une radio ponctuelle. Ouais. On en revient aux médias,
107, quoi.
Voilà, ouais. On en revient aux médias ponctuels éphémères dont parlait l'historien dans le reportage. Où c'est le média. Il y a une radio qui spontanément surgit sans aucune autorisation.
Les blablas de l'ESS, c'est au bistrot et à la radio.
Vivement mercredi !
Ces blablas, on me gagne !